Nicolas Demorand, c'est parti pour le 7-9. Bonjour.
Bonjour Mathilde et bonjour à tous. Il est 7h.
France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et nous sommes le jeudi 26 mars. Un grand, grand bonjour à tous et donc bienvenue sur France Inter. Je suis seul, Daniel Morin le disait dans le cockpit aujourd'hui, Léa Salamé ayant télévision ce soir pour une émission spéciale consacrée à l'épidémie de coronavirus qui sera diffusée par France 2. Elle me laisse entre vos mains et vos oreilles. Heureusement qu'Agnès Soubiran est là. Bonjour Agnès.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'appel à l'unité d'Emmanuel Macron face au virus depuis Mulhouse hier soir. Le chef de l'État a promis un plan massif d'investissement pour l'hôpital. Annonce et réaction dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
L'appel aux volontaires pour soutenir les équipes soignantes avec le concours des plateformes qui proposent des logements gratuitement. Une solidarité aussi en Grande-Bretagne où plus de 400 000 personnes se sont proposées pour de l'aide au quotidien. Ne mangez pas que des pâtes, goûtez nos fruits. L'inquiétude des producteurs de fraises en ce début de saison. Et puis le Festival d'Avignon, il est pour l'heure maintenu, mais la programmation est d'ores et déjà revue à la baisse.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, l'économiste Daniel Cohen, il est directeur du département d'économie de l'École normale supérieure. Et à 8h20, je recevrai dans le grand entretien du 7-9 la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert, les standardistes vous attendent. 01 45 24 7000.
France Inter.
L'image restera. Emmanuel Macron, masque sur le visage aux côtés des militaires dans l'hôpital de campagne dressé sur le parking de l'hôpital de Mulhouse. Emmanuel Macron, chef d'une guerre contre le coronavirus qui déclenche l'opération militaire Résilience pour soutenir la population. Mais c'est avant tout aux soignants que le chef de l'État a voulu s'adresser. Cyril Gradiani.
Dans cet hôpital militaire de campagne installé à Mulhouse, Emmanuel Macron campe sur ses positions.
Je vous ai dit il y a quelques jours que nous étions engagés dans une guerre contre un ennemi invisible, ce virus. Et cette ville, ce territoire, porte les morsures de celui-ci.
Un chef de guerre qui en appelle à l'union.
Je vois dans notre pays les facteurs de division, les doutes, toutes celles et ceux qui voudraient aujourd'hui fracturer le pays, alors que nous ne devons avoir qu'une obsession. Être unis.
Au-delà des querelles politiques, Emmanuel Macron a surtout voulu rendre hommage au personnel soignant, sans en oublier un seul.
Qu'ils interviennent à l'hôpital, en ville, dans les EHPAD, dans nos établissements accueillant des personnes en situation de handicap, dans les services à domicile, qu'ils soient médecins, infirmiers, ambulanciers, pharmaciens, aides-soignants, tous sont en première ligne.
Pour resserrer les liens avec cette première ligne qui parfois doute ces derniers jours, qui pour beaucoup hurle depuis des mois contre le manque de moyens, le président a fait plusieurs promesses, notamment
un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital.
C'est ce que nous leur devons, conclut-il, c'est ce que nous devons à la nation.
Emmanuel Macron qui reprendra la parole dans les tout prochains jours pour se prononcer notamment sur la durée de confinement. Alors l'annonce de ce plan massif pour l'hôpital a été plutôt bien accueillie par des personnels soignants en lutte, parfois en grève depuis des mois pour demander des conditions d'exercice à la hauteur de leur mission. Anne Gervais est médecin, elle est membre du collectif Interhôpitaux.
Il y a clairement pour la première fois quelque chose qui répond à une partie de ce qu'on demande. C'est pas du confort. C'est vital pour la nation. C'est bien que le président de la République s'en soit rendu compte. Oui, c'est bien. Là, je suis contente. Mais en même temps, je suis archi triste que ça se passe dans ces conditions-là. Maintenant, il faut que ça soit traduit en chiffres. Et puis, il faut surtout des bras. Ça, il n'en a pas parlé. Et ça, on le vit cruellement actuellement. Hein. C'est comment on fait pour avoir assez de bras? Comment on fait pour avoir assez de personnel? C'est pas une infirmière pour 14 malades, c'est une pour 6 ou une pour 8. Et puis, on s'en occupe mieux comme ça des gens.
Témoignage recueilli par Véronique Julia. Plus politique, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, souligne, lui, le manque persistant de moyens pour lutter contre le Covid-19.
Ce qui est frappant, c'est que plus le temps passe et plus on a le sentiment d'un décalage
croissant entre le discours martial du président, qui nous rappelle à chaque fois que nous sommes en guerre, mais avec des moyens qui ne sont pas ceux d'une économie de guerre. Que demandent les soignants aujourd'hui? Ils demandent en fait des tests, ils demandent des masques, ils demandent du gel, ils demandent des respirateurs, et on leur répond en fait avec des mots qui sonnent de plus en plus creux. La grandiloquence, ça ne remplace pas l'efficacité.
Réaction recueillie par Laurence Perron. Alors face au manque de moyens et alors que l'épidémie continue de progresser, 1331 morts et près de 3000 malades actuellement en réanimation, le ministère de la Santé a lancé hier soir un appel à tous les professionnels de santé, y compris aux retraités, pour venir en aide au personnel dans les régions les plus touchées, que sont le Grand Est, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté et l'Île-de-France. Il faut également anticiper les besoins en Outre-mer, où l'épidémie ne fait que commencer, mais où les perspectives sont bien sombres. Deux porte-hélicoptères vont d'ailleurs être déployés dans l'océan Indien et les Antilles. Alors pour accueillir ces soignants, mobilisés parfois loin de chez eux, les plateformes de location de logements touristiques en ligne ont été mise à contribution. Sur Airbnb, par exemple, des hôtes acceptent de mettre gratuitement leurs appartements à disposition. Claire Chaudière.
Plusieurs centaines de milliers d'emails envoyés aux propriétaires d'appartements inscrits sur Airbnb ou encore PAP. Résultat, en 48 heures, près de 4000 logements mis à disposition un peu partout en France. Sabine est à Paris.
Quand j'ai reçu l'email proposant d'offrir des logements à titre gratuit au personnel soignant pour leur permettre de ne plus avoir des trajets, je me suis dit on peut offrir cette possibilité, surtout qu'on est vraiment à proximité de Necker.
De longs trajets, 50 km aller, 50 km retour, que Slive, 23 ans, aide-soignant à la Pitié-Salpêtrière, connaît bien. Valise posée à deux pas de son service, pas plus tard qu'hier soir.
J'ai eu un appartement vraiment super grand, je ne m'attendais pas autant. Ça va moins me déranger en fait, d'enchaîner des jours. Et en plus, je n'ai pas l'impression de contaminer qui que ce soit, je suis tout seul.
Logements qui doivent aussi servir à accueillir, là où la vague est en train d'arriver, des renforts de régions où l'épidémie ne flambe pas encore, martèle Kamel Boudjedra, à la tête d'une agence d'intérim des métiers de la santé.
C'est essentiel, ça veut dire qu'on a des possibilités pour renforcer les foyers tels que celui de l'Île-de-France en déplaçant des professionnels de santé.
Professionnels de santé à qui les plateformes de location conseillent de se signaler, même s'ils ne trouvent pas à première vue d'appartement dans la zone recherchée, certains propriétaires pouvant être sollicités dans l'urgence.
Un appel à volontaires a également été lancé en Grande-Bretagne pour demander cette fois à tous ceux qui le peuvent de soulager le personnel soignant en effectuant des tâches du quotidien comme livrer des médicaments à domicile. Et en quelques heures, Antoine Gignot, ce sont plus de 400 000 personnes qui ont répondu à cet appel.
Ils se sont inscrits sur Internet, sur des listes de quartiers ou des groupes Facebook. Dina Davidson a 26 ans. Elle a été parmi les premiers à répondre à l'appel pour aider les médecins et les infirmières. Il y a trois choses essentielles, dit-elle. La première, c'est de transporter du matériel médical d'un établissement à l'autre. La deuxième, c'est de livrer les courses, les prescriptions de médicaments, ce genre de choses chez les gens. Et la troisième, c'est d'aider ceux qui sont guéris à rentrer chez eux. Et moi, j'ai signé pour tout ça parce que je suis en forme et en bonne santé. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire. Et elle n'est pas la seule. Le directeur du système de santé espérait recruter 250 000 personnes à travers le pays. En moins de 24 heures, ils sont déjà plus de 400 000. Stephen Powys est un peu ému. C'est une réaction ahurissante, dit-il. Et ça montre à quel point cette nation a envie de maîtriser le coronavirus. Ça montre aussi à quel point les gens ont envie d'aider les autres dans cette période difficile, et particulièrement d'aider ceux qui font partie des groupes à risque, ceux qui sont obligés de s'isoler et de rester à la maison. C'est une réaction absolument fantastique. Enthousiasme partagé par les équipes dans les hôpitaux, mais les médecins et les infirmières attirent aussi l'attention sur le manque cruel de masques et d'équipements de protection. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
L'Espagne, elle, manque de tout. 738 décès enregistrés en 24 heures. Le bilan dépasse aujourd'hui celui de la Chine avec 3434 morts. Le Parlement a voté dans la nuit la prolongation de l'état d'urgence jusqu'au 14 avril. L'Espagne qui va participer aujourd'hui à un G20 exceptionnel pour faire face à la pandémie qui menace l'humanité tout entière, selon l'ONU. Et ce matin, c'est aux États-Unis que la contagion progresse le plus rapidement avec le cap du millier de morts franchis et près de 70 000 cas confirmés. Sur le plan économique, un accord a finalement été trouvé et le Sénat a adopté un plan de soutien de l'économie américaine de 2 000 milliards de dollars, soit 1 840 milliards d'euros.
Il est 7h09, Agnès. En France, 100 000 entreprises sont désormais touchées par des mesures de chômage partiel.
Cela concerne 1 200 000 salariés, chiffre communiqué par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et ceux qui s'inquiètent particulièrement en ce moment, ce sont les producteurs de fraises. 2013. Les plus précoces, les gariguettes, sont arrivées sur les étals, mais les consommateurs semblent pour l'instant leur préférer pâtes et riz. Manuel Ruffez.
La France produit chaque année 50 000 tonnes de fraises dans 550 exploitations. Au total, on estime que la filière représente 5 000 emplois directs et indirects. Seulement cette année, problème, les fraisiculteurs se sont vite aperçus que leurs fraises ne se vendent pas. Elles sont délaissées, c'est le terme qu'emploie Xavier Mas, lui-même producteur et président de l'AOP Fraises de France.
Nos produits sont là, sont mûrs, sont bons. Mais les consommateurs dans les magasins aujourd'hui se sont plutôt tournés vers les produits comme la pomme de terre, le riz, les pâtes, et pas tellement vers les produits frais et les fruits frais et les légumes frais, et en l'occurrence pas encore vers la fraise et la gariguette.
Et pourtant la grande distribution s'est mobilisée, s'est engagée à mettre en avant les produits français et à limiter les importations, mais l'inquiétude est toujours là.
Ce qu'on ne souhaiterait pas, c'est effectivement arriver à un stade où on serait obligé de détruire nos produits, parce qu'économiquement, ça poserait de gros problèmes sur l'équilibre économique de nos exploitations. Ça mettrait certaines d'entre elles en danger. Tout n'est pas perdu, hein. On a encore la possibilité de se rattraper, parce qu'on est vraiment au début de la saison. Mais il ne faut certainement pas que les choses perdurent, parce que sinon, on sera en difficulté économique grave.
Les Français, en temps normal, aiment les fraises. Ils en consomment normalement 120 000 tonnes par an, plus du double de la production française.
À noter également la fermeture à la fin du mois de l'aéroport d'Orly et dès aujourd'hui de l'aéroport de Beauvais en raison de la baisse spectaculaire du nombre de vols. Fermeture jusqu'à nouvel ordre. La France a annoncé hier soir le retrait de ses troupes d'Irak, soit environ 200 militaires qui participaient essentiellement à des missions de formation. Une décision prise en concertation avec les autorités irakiennes, elles aussi confrontées à l'épidémie de Covid-19 qui frappe également durement son voisin iranien. La restriction de déplacement, c'est bien ce qui a permis à la Chine et plus particulièrement à la province du Hubei de juguler l'épidémie. C'est ce qui ressort d'une étude menée par une équipe internationale de chercheurs et publiée aujourd'hui dans la revue Science. Sophie Becherel.
À Wuhan, l'interdiction de voyager a été décrétée le 23 janvier. À cette date-là, il y avait des personnes infectées dans la plupart des villes chinoises, pas détectées à temps car en période d'incubation. Pourtant, le cordon sanitaire autour de la ville épicentre a parfaitement fonctionné. Les chercheurs ont détecté avant la fin des déplacements 515 cas infectés en provenance de Wuhan. Au 31 janvier, c'est-à-dire une semaine après les restrictions de déplacement, 39 seulement. En somme, explique Samuel Alizon, modélisateur au CNRS, l'intensité des voyages coïncide avec l'intensité de l'épidémie.
Ce que montre cette étude, c'est que plus il y avait de voyageurs en lien avec Wuhan et plus les épidémies dans les différentes régions de Chine ont été fortes.
Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont croisé les données de géolocalisation et les contaminations. C'est au début de l'épidémie que le cordon sanitaire joue à plein. Pourrait-on extrapoler ces résultats à la France ? Les Parisiens, en quittant Paris avant le confinement, ont-ils contribué à faire grimper l'épidémie en province ? Samuel Alizon reste prudent.
Il faut prendre des précautions parce que d'une part, à Wuhan, on avait vraiment l'épicentre de l'épidémie avec une prévalence, un nombre de cas très élevé. C'est pour ça qu'on le détecte dans les données. D'autre part, une des conclusions de leur étude, c'est que cette limitation des échanges, elle marche bien en début d'épidémie.
Parce qu'on n'a de toute façon pas détecté les cas comme les Chinois, cette hypothèse a peu de chances de pouvoir un jour être vérifiée.
Et à l'instant, la Russie annonce la suspension de tous ses vols internationaux à partir de demain minuit. Après Roland-Garros et les Jeux Olympiques, incertitude à présent sur Wimbledon et le Tour de France. Le départ de la Grande Boucle est en principe prévu le 27 juin prochain. La ministre des Sports envisage une course à huis clos. Nous y reviendrons dans le journal de 8h.
Il est 7h13, Agnès. Incertitude aussi sur la tenue du Festival d'Avignon.
La conférence de presse de la 74e édition devait se tenir hier. Elle a été repoussée. Le festival doit en principe se tenir du 3 au 23 juillet prochain. Il est pour l'heure toujours maintenu, mais il va devoir s'adapter car les équipes artistiques sont elles aussi confinées, Stéphane Capron.
L'objectif est clair pour la direction du festival, maintenir l'ouverture le 3 juillet. Pour le moment, toutes les productions sont au ralenti. Les artistes s'adaptent en imaginant de nouveaux modes de répétition, notamment la visioconférence. La direction est dans l'impossibilité de dévoiler la totalité de la liste de la quarantaine de spectacles à l'affiche, car tout va dépendre de la situation de la crise sanitaire dans les semaines à venir. Il y a une seule équipe qui peut répéter physiquement, car elle est confinée, seule, sur une petite île au large de la Norvège. Un spectacle a d'ores et déjà été annulé. Il s'agit d'une production entre l'Europe et l'Afrique du Sud. L'équipe a pris trop de retard et ne sera pas prête à temps. Une course contre la montre va s'engager pour le montage de la cour d'honneur de 2000 places au cœur du Palais des Papes. L'opération prend 3 semaines. La construction a été décalée à la mi-mai. Et puis, la direction du festival recense toutes les salles de répétition disponibles autour d'Avignon pour permettre aux équipes de répéter en juin, après la période de confinement.
Une pièce de théâtre en plein air, on en rêve, Nicolas.
Oui, vraiment. Merci Agnès Soubiran.